French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Expatrié. Nom. Adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
Tellement contente, tu vois, de m'être fait ce cadeau, parce que c'est vrai que j'aurais pu changer d'avis, j'aurais pu me dire « Oh, je viens de rencontrer ce mec, allez, tant pis, New York attendra ». J'ai senti qu'il fallait que je le vive, quoi, et mon Dieu, comme j'ai bien fait, vraiment, ouais, non, c'était trop bien.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez. Et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Salut, salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston, sur la côte nord-est américaine. Pour celles et ceux qui le fêtent, on espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes de Noël. Pendant que l'équipe reprend des forces pour la rentrée, on a décidé de vous proposer un des épisodes que vous avez peut-être manqué depuis que vous avez commencé à nous écouter, remixé à la nouvelle sauce French Expat grâce au talent de notre ingénieur du son Alice Krief. Et ouais, aujourd'hui je vous propose donc de mettre le cap sur New York, une ville qui fait rêver tout autour du monde pour les fêtes de fin d'année, en compagnie d'une autre podcasteuse que vous connaissez peut-être, Clémentine Gallet de Bliss Stories. Clémentine a une ville de cœur aux États-Unis, c'est New York. Elle y a fait plusieurs séjours pendant son adolescence, puis un jour elle a décidé de suivre son intuition et de partir y vivre pendant un peu plus d'un an. Dans une boîte de production la journée, dans un café français le soir, Clémentine vit à 300 à l'heure. Elle le dit elle-même, quant à l'énergie, New York, c'est nos limites, c'est incroyable. Finalement, New York, c'est une révélation pour elle qui impacte encore aujourd'hui son quotidien. Un an plus tard, les liens familiaux ont été les plus forts et ont poussé Clémentine à rentrer en France auprès de sa tribu. Mais elle l'avoue elle-même, New York et elle, c'est une histoire qui n'est pas complètement terminée. Affaire à suivre. Avant de vous laisser en compagnie de Clémentine, n'oubliez pas que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous parler la semaine prochaine. Allez, ceinture, direction New York, New York.
Alors, je m'appelle Clémentine Gallet, j'ai 42 ans et je suis la maman de Pablo qui a 9 ans et Thelma qui a 7 ans.
D'accord.
Voilà. Et la compagne de Julien qui a également 42 ans. Je suis podcasteuse. J'interview des femmes qui me racontent leur grossesse et leur accouchement sans filtre. Je donne la parole à ces femmes qui me racontent leur trajectoire de mère dans un but de transmettre et de libérer la parole. Voilà, et que les informations circulent entre femmes.
Et tu fais ça d'ailleurs très très bien, avec beaucoup de douceur et de bienveillance.
Je te remercie.
Ton podcast s'appelle Bliss, pour ceux qui n'avaient pas encore fait le rapprochement, Bliss Stories. Et tu es aussi auteur d'ailleurs. Dans le livre, j'ai pas encore regardé, mais j'en ai beaucoup.
Oui, j'ai un livre qui est sorti en septembre, là, à la rentrée.
D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui ? Tu es à Paris, c'est ça ?
Oui, je suis en direct de ma chambre, hein, qui est en fait mon bureau, qui est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, puisque même si maintenant je commence à avoir une petite équipe autour de moi, c'est quand même un métier très solitaire. Même si je rencontre plein de femmes et je fais plein d'interviews, mes journées sont beaucoup face à mon ordi, à bosser à mon bureau, quoi.
Je j'aimerais bien comprendre un petit peu qui était la petite Clémentine.
Je sais pas comment te dire, mais en fait, moi, j'ai toujours eu plutôt confiance en la vie. J'ai des parents qui m'ont, je pense, beaucoup... Enfin, c'est pas je pense, et je suis sûre, beaucoup transmis ça. Et du coup, j'étais pas très inquiète. Même si j'avais pas d'idée très précise, j'étais pas très inquiète. Déjà, je savais que quoi que je fasse, j'aurais l'approbation de mes parents. Et ça, c'est quand même important dans la vie, je pense. Donc voilà, moi, j'ai une famille d'intermittents du spectacle pur et dur. Donc, j'ai des parents qui ont bossé dans la télé toute leur vie. Donc, c'est vrai que moi, mon horizon comme ça, premier, c'était les plateaux de télé. Donc, je savais que ça, c'était quand même un métier assez cool, plutôt épanouissant, parce que j'ai toujours vu mes parents très épanouis dans leur métier. Mais moi, j'ai eu très vite envie de faire plutôt du cinéma. Voilà, donc très vite après le lycée, je me suis dirigée vers des études de cinéma. Donc j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA, qui est à Paris. Après, voilà, quand tu sors de l'ESRA, tu peux faire plein de choses. Et moi, en fait, j'ai tout de suite démarré sur le terrain. Il n'y a rien de tel que de se confronter à la vie professionnelle. En tout cas, dans ces métiers-là, je trouve que c'est que il n'y a pas meilleure façon d'apprendre. Donc très vite, je me suis retrouvée, j'ai eu la chance de me retrouver sur des plateaux de cinéma assez fous, puisque le premier plateau sur lequel je me suis retrouvée, c'était un téléfilm de José Dayan. Tu sais, ces gros téléfilms de l'époque où elle faisait, dans lesquels elle faisait tourner Depardieu. Et là, c'était un biopic sur la vie de Balzac, où Depardieu jouait Balzac. Il y avait Jeanne Moreau, il y avait un casting incroyable. Et moi, je me suis retrouvée là, j'avais 20 ans. Bon, j'étais chargée de faire des cafés et d'aller chercher les figurants, tu vois, dans les loges. Mais c'était totalement fascinant. C'est vrai qu'il y avait un gouffre entre ce que j'avais appris à l'école et la réalité d'un plateau, quoi. Mais j'ai tout de suite complètement adoré ça. Et voilà, et je me suis dit, OK, bon. Et j'avais même pas fini l'école, pour tout te dire. Donc, j'ai arrêté l'école... plus tôt que prévu. J'ai fait 2 ans au lieu de 3.
Oui, il semble même que tu apprenais beaucoup plus finalement sur le terrain qu'à l'école.
Oh bah, laisse tomber. En 3 mois de tournage, j'avais appris bien plus qu'en 2 ans à l'école. Donc voilà. Et puis du coup, j'ai rencontré des équipes, si tu veux, qui m'ont ensuite embarqué avec eux sur d'autres tournages, puisque ça marche beaucoup comme ça. Tu fais tes preuves une fois et puis après, voilà, on te reprend sur le prochain, quoi.
Génial, mais non, c'est vachement inspirant tout ça. Et alors justement, c'est sur un plateau, sur un tournage, que tu as rencontré ton chéri. On va s'aimer, c'est ça? C'était le titre du film?
Ouais. Tu es bien renseignée, dis donc. En fait, on a été tous les deux embauchés, lui donc dans l'équipe déco et moi dans l'équipe mise en scène sur ce film, effectivement, qui était une comédie musicale improbable avec Gilles Lelouch, Alexandra Lamy, Mélanie Doutet. Ouais, c'était très fun à faire. Vraiment très sympa, une comédie romantique et musicale, parce qu'il y avait beaucoup de chansons parisiennes. On a tourné tout l'été, c'était vraiment... très, très sympa comme condition de tournage. Et moi, j'étais déjà dans l'idée de me calmer un peu sur les tournages parce que j'ai beaucoup enchaîné. Et en fait, c'est vrai que c'est un rythme assez intense. Ouais. Et puis voilà, et puis j'ai rencontré Julien sur ce tournage. Voilà, et puis écoute, ça a duré avec ce titre effectivement prémonitoire. On s'est dit, bon, on n'a pas
tellement... génial. Et alors, malgré le fait que vous vous soyez rencontrés peu de temps avant, tu dis, écoute, Julien, t'es peut-être le bon, mais moi, j'ai décidé de partir à New York. C'était prévu depuis combien de temps et comment ça s'est passé, du coup?
Oui, en fait, effectivement, avant de démarrer ce tournage, j'avais déjà, comme je te dis, entamé un petit virage dans ma vie professionnelle. J'avais envie d'explorer autre chose. Et New York, je connaissais déjà très bien parce que j'y avais beaucoup été en tant que jeune fille au pair et en tant que d'abord touriste, puis jeune fille au pair. Donc, c'est une ville qui ne m'était pas du tout inconnue, voire qui m'était déjà familière et dans laquelle j'avais envie d'explorer plus, quoi. J'avais envie en fait de vivre comme une New-Yorkaise. J'avais envie de vivre un quotidien. En fait, à chaque fois que j'y avais été, j'avais été frustrée, voilà, que ce soit si court. Et donc, j'avais envie d'expérimenter. J'étais jamais partie à l'étranger avant. Tu sais, souvent, on fait une année à l'étranger après ses études et tout. J'avais pas fait ça et j'étais en manque de ça. Et je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, il n'est pas trop tard. Enfin, tu vois, c'est pas parce que t'as eu un premier morceau de carrière professionnelle, voilà, qu'on peut pas prendre un virage sans être radical, puisque l'idée n'était pas de, enfin, l'idée, c'était toujours de rester, voilà, dans cet univers de l'audiovisuel. mais plutôt dans, dans la partie production. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas allier cette expérience à New York avec, avec justement un stage, une expérience professionnelle dans, dans une boîte de prod. C'est parti de là. Et donc, bah, j'ai fait en sorte de trouver une boîte qui était prête à m'accueillir. Et une fois que je l'ai eu trouvée, bah, voilà, il n'y avait plus qu'à, quoi. Tu vois, j'avais une structure professionnelle qui m'attendait et qui me garantissait un an dans leur boîte, quoi. Donc, c'était génial. Après, il fallait juste que je trouve de quoi payer mon loyer.
Oui, ce qui n'est pas accessoire, quand même, à New York.
Trois fois rien. Et surtout, voilà, quand j'ai découvert les loyers dans Manhattan, si tu veux, j'ai un peu fait gloops. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Bon, bah, va falloir faire des heures de service. Ouais. Va falloir vendre des crêpes.
Ce qui est d'ailleurs exactement ce que tu as fait dans West Village, non, c'est pas ça?
Ouais, c'est ce que j'ai fait. Bah, en fait, si tu veux, quand je suis arrivée là-bas, j'avais quand même un plan d'appart pour quelques semaines, tu vois, au moins pour me retourner et trouver justement un boulot et un appart. Et donc, je me suis retrouvée à chercher une coloc sur Craigslist, qui était, je sais pas si c'est toujours la référence.
Oui, si, Craigslist, c'est un peu le bon coin américain.
Voilà, ouais, c'est le bon coin américain où il y a effectivement une partie immobilier coloc qui est très, très, très active et très efficace. Et donc, je me suis inscrite et j'ai scrollé toutes les petites annonces possibles et imaginables. Mmh. Et voilà, et puis je me suis retrouvée dans un appart. Alors, l'appart, il était dans East Village et j'ai trouvé un boulot dans West Village. Voilà, c'était sur la même,
rue.
Longitude, latitude. Tu vois.
À plat, quoi.
Mais, et voilà. Mais il fallait quand même traverser, la ville d'est en ouest. Voilà. Et j'ai trouvé donc un petit job dans un resto français qui s'appelait Le Gamin. Et voilà. Et j'ai été embauchée comme serveuse. Je n'avais jamais servi un café à personne.
Ah, bah si, du coup, sur les plateaux, sur les tournages.
Oui, à part effectivement sur les plateaux. Oui, t'as raison. Pas tout à fait la même chose. Et du coup, j'ai appris à faire des cafés, à faire des et à servir, tu sais, à mettre plusieurs assiettes sur le bras et voilà, c'était hyper sympa. J'étais avec toute une équipe française. L'endroit était très chaleureux. C'était vraiment, tu sais, le petit endroit cosy où tu viens te réchauffer avec un bon chocolat chaud et une crêpe au sucre, quoi.
D'accord.
Tu vois. Et c'était vraiment chouette, ouais. Et du coup, j'ai bossé là-bas, mais pendant des heures et des heures le soir. En fait, je rentrais de ma journée de boulot dans la boîte de prod et puis j'enchaînais.
Waouh, ça fait des grosses journées, ça, hein ?
Ouais, ça faisait des bonnes journées. Et j'arrivais quand même pas mal à faire la teuf aussi, donc tu vois, je m'étais bien débrouillée.
Avant de passer à la suite, je t'aurais bien demandé juste parce que on dit souvent que même Paris est une ville qui est très chère. Et du coup, pour les auditeurs qui sont jamais allés à New York, tu pourrais donner une idée. Est-ce que tu te souviens des gammes de prix? Tu vois ce que je veux dire en termes de loyer ou la vie en général est assez chère à New York. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué particulièrement ou c'était vraiment un truc général?
Ah oui, le prix des loyers m'a choqué. c'est clair. Ah non, mais c'était exorbitant. Et pourtant, comme tu dis, je suis parisienne et donc j'avais déjà la pratique des loyers parisiens puisque j'étais déjà, tu vois, j'avais déjà mon appart, quoi. Donc je m'étais trouvé une coloc, donc une chambre dans un two bedrooms, tu vois. J'avais quand même une chambre assez grande. Je crois que je payais peut-être $2,000 par mois. Donc $2,000 par mois.
Quand t'es stagiaire et ça serveuse, paraît, ça paraît dingue, quoi.
Tout mon salaire y passait. Ah bah oui, parce que c'était ma seule source de revenus. Donc ça, c'était le premier appart que j'ai eu. J'étais en coloc avec deux nanas en couple et c'était hyper sympa. Elles étaient jamais là d'ailleurs, donc j'avais beaucoup l'appart pour moi toute seule jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il était habité également par un rat. Donc ça, c'était quand même un peu moins sympa.
Ah, alors là.
Et j'avoue que ce jour-là, j'ai été, mais pourtant, je te jure, je suis pas chochote des bêtes, mais là, en fait, le jour où j'ai découvert que mon pain était grignoté toutes les nuits par un animal, mais c'est aussi ça, hein, les appartements new-yorkais, hein. C'est hyper charmant, il y a des échelles à l'extérieur et des briques à l'intérieur, mais il y a aussi, ça peut être habité aussi par des bêtes. Et pourtant l'appart, je te jure, il était mais nickel, refait à neuf et tout franchement, il y avait rien d'insalubre a priori, sauf que bah en fait voilà, les rats étaient là, quoi. Et alors ce jour-là, mon Dieu, j'ai hurlé parce qu'en fait, je me suis jamais retrouvée nez à nez avec lui, mais je l'ai vu, tu sais, tu tournes la tête et tu vois une espèce de forme qui cavale sur ton plan de travail. T'es là, ouais. Ok, je vais faire un tour.
Alors, ouais.
Voilà. Donc ça, c'était le premier appart. Et après, j'ai bougé dans un autre appart. Alors là, c'était le plan en or, en plein Union Square. Tu vois, vraiment derrière le Flatiron Building, là, cet immeuble en forme de fer à repasser bien connu. C'était une petite rue perpendiculaire au Flatiron. Et là, en fait, c'était un plan qu'on avait eu par un correspondant français journaliste. Qui nous avait sous-loué son appart en fait tout l'été parce qu'il était en France je crois et du coup et ça c'était génial, on avait passé 3 mois là-dedans pour du coup un loyer beaucoup plus raisonnable parce qu'entre Frenchie on s'entraide quoi. Et là on a habité à plusieurs parce que mon frère est venu me rejoindre, Julien est venu me rejoindre, enfin là pour le coup on était une bonne petite bande. C'était cool.
Trop bien. Ouais. Et j'allais te demander justement, donc Julien, donc tu le rencontres, c'est le début finalement de votre histoire. Tu pars et tu lui proposes de partir, c'est bien ça, enfin, ce que j'entendais, je crois, dans Pourquoi pas moi, j'écoutais.
Ah oui. Bah écoute, je lui ai dit voilà, moi ça c'est mon programme en fait, et c'est mon programme, et en fait on se connaît à peine puisqu'on sortait ensemble depuis 2 mois, tu vois.
Ouais, d'accord.
Et tout même début, si. Vraiment, je le kiffais bien et qu'on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose de, tu vois, de solide entre nous. C'était quand même...
Ouais, t'étais pas prête à remettre en question ce grand voyage, ce projet finalement.
Non, j'étais pas du tout prête à remettre en question ce voyage. C'était hors de question. Donc oui, effectivement, on s'est retrouvé un peu devant le fait accompli. Genre bah voilà, moi je fais ça. T'es le bienvenu. Rejoins-moi si tu veux. Et puis on verra bien. C'est ce qu'il a fait. Il m'a rejoint. Il est venu 2-3 fois. C'était très bizarre du coup de se revoir. La vie new-yorkaise, elle va à 1000 à l'heure en fait. Donc moi, à partir du moment où j'ai posé les pieds sur le sol new-yorkais, j'ai été embarquée dans ce tourbillon de vie, de nouvelle vie professionnelle, parce que du coup, j'ai intégré cette boîte de prod, qui était une boîte de prod française où il se passait plein de choses, où je me suis mise à découvrir d'autres fonctions que je n'avais jamais exercées, en fait, et qui étaient passionnantes. Et puis à vivre, à me faire des connexions, à sortir, à kiffer, quoi. Enfin, j'étais dans un truc d'effervescence incroyable que j'avais recherché d'ailleurs. Hein. Donc je vivais ma meilleure vie, tu vois. Et c'était marrant parce que du coup, lui, quand il arrivait de Paris, c'était un peu la vieille vie, tu vois. C'était un peu l'ancienne vie qui me rattrapait. Et du coup, il fallait trouver un point de retrouvailles. En plus, dans cette histoire d'amour qui était débutante, on n'était pas du tout a priori dans les mêmes vibrations, tu vois. Et pourtant, on s'est retrouvés, tu vois, parce que lui, il a vite raccroché mon wagon, en fait, tu vois, et il s'est complètement laissé aussi emporter dans mon rythme. Je lui ai présenté les gens que j'avais rencontrés là-bas. On est beaucoup sortis, on a beaucoup fait la fête, on a adoré en fait démarrer notre histoire dans ce tourbillon là quoi. C'était cool en fait. Ça aurait pu complètement clasher et on aurait pu vraiment 1000 fois ne pas se retrouver. Ouais, à chaque fois on s'est bien retrouvés.
C'est génial. Tu sais quoi, ça me fait penser au début d'un roman de, comment il s'appelle, tu sais, l'écrivain Marc Lévy. C'est un Marc Lévy qui se passe, donc une comédie romantique qui se passe entre Paris et New York. C'est exactement ça.
Mais franchement, j'étais un peu dans un roman de Marc Lévy, j'avoue. Et c'est pas mal en fait.
Plutôt sympa, j'imagine.
J'assume totalement. Ah non, mais pour moi, ça reste une année exceptionnelle.
Ouais, hors du temps un peu, non?
Ah ouais, complètement hors du temps. Oh, je suis tellement contente, tu vois, de m'être fait ce cadeau, parce que c'est vrai que j'aurais pu changer d'avis, j'aurais pu me dire « Oh, je viens de rencontrer ce mec, allez, tant pis, New York attendra. » Et j'ai senti qu'il fallait que je le vive, quoi. Et mon Dieu, comme j'ai bien fait, vraiment, ouais. Non, c'était trop bien.
Et tu parlais justement du fait que tu avais déjà eu des expériences, notamment en tant que jeune fille au pair aux US. Du coup, est-ce que tu pratiquais couramment l'anglais? Enfin, tu parlais bien anglais avant de partir?
Oui, je parlais déjà anglais, plutôt bien. En tout cas, je comprenais déjà tout. Et après, tu sais, il y a toujours de la fluidité qui a besoin de d'être exercée. Et ça, pour ça, il y a rien de tel que voilà que d'être sur place, que d'être en immersion. Mais oui, moi, l'anglais, c'est une langue que j'adore et que j'ai très vite parlé. Un peu d'ailleurs sous la contrainte au début. C'est marrant parce que mon histoire avec la langue anglaise a été très difficile au début parce que, en fait, j'ai été envoyée, j'étais en sixième, 10-11 ans, dans une famille anglaise pendant les vacances d'été. Et tu vois, j'étais petite, enfin, rétrospectivement, 10 ans, c'est quand même jeune pour partir. Et j'ai été envoyée dans cette famille anglaise dans le but de, voilà, de faire un voyage immersif, donc très cool dans l'idée, tu vois. Et moi, je trouvais ça chouette. Sauf que cette famille vraiment ne parlait pas un mot de français. Et moi, j'avais un an de collège, tu vois, de sixième derrière moi. Donc, autant te dire que mon niveau était quand même très, très limité. Et je me suis retrouvée dans cette famille à devoir me démerder, mais vraiment comme je pouvais. Et honnêtement, ça a été hyper dur. Je pleurais tous les soirs. Je voulais voir ma maman. Je voulais retourner en France. J'avais le homesick, tu vois, vraiment le mal du pays, mais en puissance. Et malgré tout, en fait, maintenant, avec le recul, je peux te dire que c'est pendant ce voyage que j'ai eu toutes mes bases d'anglais, en fait. Et que après, j'ai plus jamais eu à bosser mon anglais.
Ça, c'est dingue.
Et voilà, parce que j'ai bien été obligée d'apprendre, quoi, pour communiquer. Puis beaucoup de séries et de films en anglais, sans les sous-titres, ou avec les sous-titres, mais en anglais. Et puis après, beaucoup de voyages aux États-Unis, justement. C'est vrai que c'est une langue que j'aime beaucoup. Donc oui, je parlais anglais. Après, il a fallu que je me fasse au vocabulaire justement professionnel, à la fois dans le milieu de la prod et le milieu de la restauration, puisque je cumulais ces deux univers professionnels. C'était trop bien.
Génial. Et d'ailleurs, quand tu étais petite, du coup, j'ai l'impression que tu as du coup beaucoup voyagé. C'était, comme tu me parles d'Angleterre, des États-Unis à plusieurs reprises, tu as cultivé cette envie de partir à l'étranger quand tu serais, entre guillemets, plus grande? Ou c'est un projet qui s'est développé quand tu étais en école de cinéma ou quand tu as commencé tes premières expériences?
J'ai toujours, effectivement, je faisais des petits voyages, scolaires l'été. Tu vois, mes parents m'envoyaient en voyage immersif, justement, dans des familles et tout. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait une année fantastique dans un collège anglais, un peu à la Harry Potter, tu vois, qui accueille des enfants, des ados, en fait, du monde entier. Et tu fais stage d'anglais.
C'est génial.
Et puis, activité sportive ou théâtre, ou machin. Donc ça, c'est vrai que c'était des formules que j'adorais et que j'ai fait plusieurs fois, mais pas du tout dans le monde entier. Je faisais l'Angleterre, point. Tu vois, j'étais vraiment bon. Donc non, j'ai pas du tout beaucoup voyagé, mais j'ai fait un peu l'Angleterre. Et après, quand j'étais jeune adulte et que j'ai pu me payer des voyages aux États-Unis, très vite New York. Mais j'étais focalisée sur New York, je sais pas pourquoi. J'étais complètement obsédée. Il n'y avait que ça qui m'intéressait. Donc voilà, écoute, à chaque fois que je devais partir quelque part, c'était New York. Alors maintenant, je me dis, c'est un peu con, j'aurais pu quand même me diversifier, mais bon.
Non, mais du coup, c'est une ville que tu connais bien.
Ah oui.
Et c'est certainement ta ville américaine de cœur. Au final, tu es restée un an à New York, c'est ça? Est-ce que tu savais du coup avant de partir que tu resterais qu'un an? Ou j'ai cru comprendre que, bon, je pense qu'on a ça en commun, sauf qu'on l'a pas vécu de la même manière, mais que tu étais assez fusionnelle avec ta famille. Toi aussi, tu es issue d'une grande fratrie d'ailleurs, non? Vous êtes quatre enfants?
Oui, exactement. On est quatre et on est tous parisiens. Mmh. Et donc, on vit beaucoup tous ensemble. Au-delà d'avoir grandi ensemble, quand on a quitté le nid ensuite, on a toujours continué d'être beaucoup ensemble avec mes frères et sœurs et nos parents. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a un attachement et une culture du lien familial qui est très 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 forte, très ancrée chez moi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis jamais partie très loin. Ni très longtemps, parce que le foyer me manque très vite. Ouais. Mais pour répondre à ta question, quand je suis partie à New York, dans l'idée, effectivement, je m'étais dit un an, tout simplement parce que j'avais pas de visa. Donc, il fallait que je fasse des allers-retours, tu vois, je faisais des allers-retours. Donc, en fait, je revenais tous les trois mois, tu
D'accord.
vois.
D'accord.
Donc, c'était une année assez hachée, mais tu vois, je rentrais, je repartais tout de suite, tu vois. Je restais genre une semaine en France et puis je repartais. Mmh. Donc, tout cumulé, si tu veux, ça a fait un an, même un peu plus. Ouais. Je m'étais dit que
je ferais ça tant que c'était possible et puis qu'éventuellement après, pour le coup, je demanderais un visa s'il y avait une opportunité professionnelle qui se présentait à moi. En parallèle, d'ailleurs, je jouais à la loterie pour avoir la green card parce que j'avais plein de potes du coup que j'avais rencontrés à New York qu'il avait gagné cette green card à la loterie. Donc, c'est que ça existe.
Ouais, c'est pas que dans les films, quoi.
C'est pas que dans les films. Et ça, mais ça me fascinait totalement. Je trouvais ça dingue, ce système de loterie qui pouvait t'ouvrir tout d'un coup une autre vie et d'autres opportunités professionnelles. Enfin, je trouve ça génial. Donc ça, je l'ai fait. Je me suis réinscrite à chaque fois. Je rempilais, si tu veux, en espérant gagner le ticket vert. Bon, qui n'est jamais, j'ai jamais été tiré au sort, malheureusement. Effectivement, au bout d'un an, la question s'est posée de est-ce que je rentre en France ou pas. Mm-hmm. Aussi par rapport à Julien, on était en questionnement de parce que lui pour le coup à New York, il y avait personne qui l'attendait ni qui lui proposait quoi que ce soit. Donc lui, sa carrière, elle continuait de se construire en France en parallèle. D'accord. Donc voilà, donc ça plus effectivement un peu le mal du pays et le sentiment que ma vie était quand même en France, on a décidé de rentrer. Mais c'était très tentant de rester là-bas aussi. Il a fallu faire un choix. Ouais. Choisir, c'est renoncer.
Avant de parler de l'après, du coup, New York, tu avais fait, comme tu disais, des expériences un petit peu en pointillé quand tu étais venue à New York auparavant. Le fait d'y avoir vécu, est-ce que ça a changé ta vision de la ville, de la mentalité des New-Yorkais ?
Alors, ça a plutôt confirmé ma vision, justement, que j'avais eue au cours de mes précédentes visites. Ça a confirmé quand même que les New-Yorkais sont quand même des gens dans une intensité de vie rare, enfin, en tout cas, que j'ai pas connu ailleurs. Et puis bon, ça va peut-être paraître un peu galvaudé, ce que je vais dire, mais quand on dit que c'est la ville de tous les possibles, c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que t'arrives là-bas, personne te juge, presque personne ne regarde ton CV en fait, ni comment tu t'es construit, ni d'où tu viens, ni quel est ton background. En fait, les gens regardent qui tu es à l'instant présent où tu te présentes devant eux en fait. Ouais. C'est ça qui m'a frappée à ce moment-là, parce que évidemment, je suis rentrée là pour le coup dans une vie professionnelle où le jugement et le côté je regarde ce que tu as fait avant, évidemment, est plus présent. Et j'ai trouvé ça fou, en fait, à quel point les gens te font confiance à partir du moment où t'as l'énergie d'aller vers eux et où t'arrives avec quelque chose à proposer ou que ce soit juste de la disponibilité ou des idées ou d'autres choses plus grandes, peu importe. Ils prennent ce que t'as à leur donner et ils en font quelque chose. Ils te permettent de le transformer, toi, cette envie et cette énergie. Et ça, c'est unique. J'ai jamais retrouvé ça nulle part ailleurs. Et j'ai trouvé ça mais merveilleux, quoi, d'arriver là. Moi, j'étais vraiment la petite Frenchie qui débarquait pour exercer. J'avais quelques cordes à mon arc, mais assez peu, tu vois. Mais j'avais de l'énergie, j'avais le sourire, j'avais l'envie et la curiosité de rencontrer plein de gens et de faire plein de choses. OK, et eux, ils prennent ça. Ils te permettent de l'exploiter, quoi. Donc, en fait, c'est nos limites. Quand t'as l'énergie, c'est nos limites. Tu te dis, ah ok, donc ça, en fait, ça c'est possible. Oui. Ça, vous me laissez le faire. Ah ok, bon. Et alors ça, du coup, la porte d'après, si je la pousse, elle s'ouvre aussi. Ah ouais, ok, elle s'ouvre. C'est incroyable, en fait, d'avoir la possibilité de se rendre compte de ça. Ça te fait, je trouve, te solidifier dans tes capacités. Si t'avais des doutes sur est-ce que je suis capable de faire ça ou est-ce que ce truc-là, c'est ce vers quoi j'ai vraiment envie d'aller. Mais en fait, tu peux tester là-bas. Mm-hmm. Tu peux tout tester et personne ne va jamais te faire chier, personne ne va jamais te dire « Ah mais attends, ça, parce que si tu t'embarques là-dedans, fais gaffe, parce que ça veut dire que tu ne pourras pas revenir en arrière. » Non, vas-y, essaye et tout le monde prendra cette bonne énergie. Et ça, c'est extraordinaire.
Ouais. Les seules limites sont un peu celles que tu te fixes toi, en fait. Il n'y en a pas vraiment de manière structurelle.
Exactement,
là-bas.
Bien sûr. C'est pour ça que je te dis, si j'avais voulu rester, j'aurais pu rester. J'aurais pu encore faire plein de trucs. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile de laisser aussi un endroit comme ça derrière
Bien
soi.
Bien sûr. À quoi est-ce que tu penses que ta vie ressemblerait justement si t'étais restée ?
Oh là là, tu sais, j'y pense souvent.
C'est vrai ?
Ouais, parce que ça a été une croisée des chemins dans ma vie. Il y en a pas beaucoup des grosses croisées des chemins comme ça, je pense. Enfin, en tout cas, dans la mienne, il y en a pas eu beaucoup. Et choisir entre un territoire et un autre, c'en est une. Donc, ouais, j'y pense souvent. C'est difficile à dire. Je pense que clairement, j'aurais pas construit une famille aussi vite. Parce que c'est quand même une ville de la vie professionnelle. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une ville où je voyais quand même assez peu d'enfants, assez ouais. peu de familles, ou alors elles sont planquées, ou alors elles sont pas dans Manhattan, elles sont un peu en dehors. Pour moi, c'était pas une ville de famille, mais c'était une ville d'éclat total sur le plan professionnel. Ça, pour le coup, oui. Je pense que je me serais jetée corps et âme, voilà, dans une vie professionnelle. J'aurais forcément dû renoncer à mon histoire d'amour avec Julien, je pense. Enfin voilà, ça aurait été donc une autre vie avec un autre homme et peut-être pas cette construction personnelle et familiale là, quoi, qui était à l'époque et qui l'est toujours ma priorité.
Ouais, voilà. Déjà à ce moment-là, tu savais que tu voulais devenir maman.
Voilà.
Tu voulais construire ta vie, d'accord. Voilà.
Et si tu veux, New York pour moi n'était pas compatible avec ça à court terme, quoi.
Non, c'est vrai, à New York, il y a des familles, mais qui sont généralement très, 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 très riches.
Voilà.
Sinon, c'est vrai que ce n'est pas toujours compatible pour le commun des mortels, si je puis dire.
Exactement.
Qu'est-ce que tu en tires de cette expérience à New York? Qu'est-ce que tu as appris sur toi à New York?
Oh, j'ai appris plein de choses. Je pense que quand je suis revenue de New York, j'avais emmagasiné suffisamment de confiance et d'énergie pour pouvoir continuer de la faire vivre dans ma vie parisienne. Donc je suis revenue, mais j'étais super power, quoi, si tu veux.
Tout est possible.
Plus rien ne pouvait m'arrêter. Et puis j'avais développé quand même un projet pro là-bas. Dans cette boîte de prod. En fait, j'avais eu une idée d'émission de télé, si tu veux, que j'avais à la base pensée pour Paris et que j'ai transposée du coup à New York. Et en fait, le producteur avec qui je bossais m'a dit « Mais franchement, c'est une super idée. Enfin, » toujours dans l'esprit, tu vois, new-yorkais, quoi. « Vas-y, just do it. Ouais. Il y a des caméras. Vas-y, prends une caméra, je te la prête et puis tourne, en fait. Vas-y. »
C'est génial.
Et donc, j'avais tourné cette émission, qui était un pilote, tu vois. Enfin, un pilote, donc un numéro un, tu vois, de ce projet. Mais j'avais été au bout du truc. Mm-hmm. Donc, j'avais tourné. L'idée était très simple, tu vois. C'était une espèce de Paris dernière à New York, tu vois. Donc, je ne sais pas si tu te souviens de cette émission
si.
Où on explore comme ça des lieux. Alors, Paris dernière, c'est très nocturne. Moi, ce n'était pas forcément nocturne, mais voilà, je me baladais. C'était New York à travers les yeux d'une Frenchie, quoi, tu ouais. vois. Et donc, j'ai tourné ce truc pendant des semaines. On l'a monté. Enfin, donc, j'avais, si tu veux, cet objet documentaire que j'avais accompli. J'avais l'impression d'avoir quand même d'être revenue de New York avec en ayant vraiment accompli quelque chose. Et d'ailleurs, par la suite, cette émission que j'avais tournée à New York m'a servi à faire d'autres choses et à démarcher et à être prise en fait pour autre chose en France.
Alors tu vas me dire si je suis bien informée, mais est-ce qu'il s'agit de Girl in the City?
Oui, exactement. Ah là là, mais t'es tellement renseignée, tellement bossé le dossier. Et non mais c'était improbable cette expérience. Et effectivement, c'est parce que j'avais fait ce truc à New York, si tu veux, qu'ils m'ont repéré et qu'ils m'ont choisi après pour le faire. C'était super parce qu'en fait, ça a fait boule de neige pour autre chose. Ça voulait bien dire qu'il fallait le faire.
Pour revenir du coup à cette fusion du coup que tu as dans ta famille, maintenant tu es maman de deux enfants, tu nous le disais. Est-ce que tu souhaites instiller un peu ce goût peut-être de la découverte culturelle, géographique, enfin tout ce que tu veux, à tes enfants? Est-ce que tu pousserais même jusqu'à peut-être leur offrir un jour la chance de partir en expat quelque part, quelque temps?
Ah ouais, mais totalement. J'adorerais. J'adorerais qu'ils aient la chance de faire ça, même plus tôt que moi je l'ai fait, tu vois. Je trouve que cette fameuse année de césure qui existe beaucoup en Europe, je trouve pas tellement finalement en France, ou peut-être que ça a changé depuis mes années lycée, mais en tout cas, moi, à l'époque, c'était pas la norme du tout de partir un an à l'étranger. Alors que dans d'autres pays, les gens se posent même pas la question, en fait. Tu pars.
Effectivement, aux États-Unis, ici, c'est hyper courant après le lycée, par exemple.
Voilà. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il le fasse, ouais. Ah ouais, ouais. Et bon, malheureusement, on voyage pas beaucoup. J'avoue, depuis qu'ils sont nés, on a très peu voyagé. Et pourtant, ils nous le réclament énormément. Mais bon, voilà, c'est pas toujours possible. Et voilà, mon fils rêve d'aller au Japon. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai hâte de leur faire. Déjà, j'ai hâte de les emmener à New York. Ça, c'est sûr que on va se le faire, ce voyage à New York tous les quatre. Et puis le Japon. Je lui ai dit que pour ses 10 ans, je l'emmènerais à Tokyo, mais bon.
Ah oui, effectivement. Et bon, si j'ai tout suivi, du coup, ça arrive bientôt. J'espère vraiment que les choses vont se calmer pour que vous puissiez faire votre voyage.
Écoute, il me reste quelques mois pour que les frontières s'ouvrent et qu'on ait le budget pour le faire.
Ouais.
Parce que c'est-à-dire que le Japon, il n'a pas choisi la destination
la plus accessible à tous les sens du terme, si m'étonne. Rétrospectivement, du coup, donc c'était quoi, il y a 15 ans que tu es partie à New York, le temps passe vite. Voilà. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à la Clémentine d'il y a 15 ans? Un truc que tu aurais peut-être aimé savoir, qui t'aurait peut-être aidé à vivre encore mieux, même si on comprend bien que c'était une expérience positive, mais à vivre encore mieux ton expérience là-bas.
Franchement, j'ai quand même l'impression d'avoir déjà bien profité, mais si je devais parler à la Clémentine d'il y a 15 ans, je pense que je lui dirais de rester quand même quelques mois de plus, que Paris peut attendre encore un petit peu. Tu vois, il y a quelque chose que j'ai pas fait à l'époque, alors qui se passe pas à New York, mais dont j'ai entendu parler pour la première fois à New York, qui est Burning Man.
Ah, ouais, c'est une sacrée peur.
Alors, Burning Man, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un énorme festival dans le désert du Nevada, où se réunissent tous les ans des milliers de personnes. Et en fait, j'ai rencontré des gens de la communauté Burning Man, en fait, à New York, lors d'une soirée improbable.
J'imagine, du coup.
Ah mon Dieu, c'était fou. Et j'étais complètement fascinée par ces gens et leur liberté. Et voilà, c'est vrai que c'est spécial, hein. Faut adhérer, mais c'est marrant. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'aurais aimé faire.
Mais il n'est pas trop tard.
T'as raison, il est jamais trop tard.
Il est jamais trop tard.
Mais quand même, je me demande si j'ai pas quand même laissé passer le train de Burning Man, ou plutôt la caravane.
Pour fêter les 20 millions d'écoutes de Bliss, peut-être.
Ouais,
une tournée américaine.
Ah ouais, bien sûr. Mais ça, c'est vrai, tu vois, c'est le genre d'expérience américaine que je regrette de pas avoir fait. Bah, ouais. Une de mes sœurs l'a fait et je l'ai tellement enviée qu'elle ait été au bout de ça. Et d'ailleurs, elle en est revenue en me disant que c'était extraordinaire. Donc peut-être que je lui dirais, écoute, vas-y, prolonge. Il y a encore une fois, Paris peut t'attendre. C'est pas 3 mois de plus qui vont faire la différence.
Mmh. C'est vrai. J'allais te demander, Bliss, du coup, tu parles de maternité, avant, pendant, après. Est-ce que tu sens que on a des visions de la maternité qui peuvent être très différentes entre deux continents. Est-ce que tu sens que ton expérience new-yorkaise t'a influencé, ou peut-être pas du tout, hein, la création de ce podcast et ce projet, du coup, complètement tourné autour de la maternité?
Avant cette expérience d'une année, donc j'ai été jeune fille au pair à New York. Et donc, j'ai vu ce que c'était que de vivre à New York avec des enfants, avec des parents qui bossaient du matin au soir, des enfants, du coup, beaucoup livrés soit à eux-mêmes, soit à leur babysitter, qui était en l'occurrence moi. Et ça, bon, vraiment, pour moi, c'était ce que je ne voulais pas. J'ai été hallucinée par la façon dont cette mère de famille gérait sa vie pro et sa vie perso, ou plutôt ne gérait pas sa vie perso et ne gérait que sa vie pro. Ouais. Je me souviens que ça m'avait vachement choquée, en fait. Elle était jamais là. Enfin, j'étais même partie en vacances avec eux dans le Maine, tu vois, pendant les vacances d'été. Et même pendant les vacances d'été, ils bossaient tous les deux. Ils étaient dans la maison, si tu veux, avec moi. Mais ils bossaient comme des chiens. Et moi, j'emmenais les mômes, tu vois, aux activités, aux trucs aquatiques, là, à base nautique, machin, des espèces de camps en plein air pour enfants, avec toutes les nounous qui se retrouvaient, tu vois, et tous les enfants qui étaient dans des espèces de centres de loisirs de riches, tu vois. Alors, moi, personnellement, en tant que babysitter, c'était très fun et j'ai adoré vivre ça. Et c'était anthropologiquement très intéressant. Mais ça m'a fait me questionner et réaliser, enfin réaliser, me confirmer que moi c'était pas du tout ça.
Ouais, c'était pas ta vision de la parentalité.
Du tout ma vision de la parentalité. Ouais. Ah ouais, c'est quand même spécial. Hein. C'est des parents qui ouais. mettent leur carrière avant tout et. Donc ça c'est vrai que pour le coup ça m'a pas inspirée. Ouais. Ou plutôt ça m'a inspirée vers une autre voie.
Ouais.
Qui était et je me suis dit putain mais les mamans françaises finalement je sais que la façon de je sais que les mères françaises sont souvent prises en exemple par les Américains enfin déjà la parisienne la française
il y a un bouquin d'ailleurs là-dessus aussi, Bringing Up Baby je sais pas si tu l'as lu sur une Américaine qui après que je me souvienne je l'ai lu justement il y a quelques mois qui en fait compare qui explique un peu si tu veux la manière d'éduquer les enfants à la française et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser aux États-Unis
voilà je sais que les Américaines sont assez admiratives de la façon dont nous on fonctionne bon notamment sur le fait que elles disent que nos enfants font beaucoup plus rapidement leur nuit que les leurs que bon enfin qu'elles comprennent pas comment on fait et que comme si on avait quelque chose à leur enseigner
c'est vrai
alors que bon on est foutu pareil hein c'est juste culturel
ouais.
C'est marrant quand même de voir à quel point il y a des différences à quel point les femmes du coup se croient inférieures ou supérieures en fonction du pays où elles naissent et où du coup elles vont faire naître leurs enfants.
Ouais.
C'est assez marrant en fait ce qu'on t'injecte culturellement dans ta vie de mère du coup et qui va enfin dans ta vie de femme et qui du coup va impacter ta vie de mère ensuite. Moi qui étais quand même dans une perspective de construction de famille, ça a confirmé le fait que la France le berceau, moi, où j'avais grandi, c'était vraiment celui où j'avais envie d'élever mes enfants.
Ouais, c'est très bien aussi, ça permet de se connaître encore mieux.
Après, j'en connais pas beaucoup d'autres. Hein.
On arrive à la fin de cet entretien.
Déjà ?
Mais oui. La tradition, à la fin de chaque épisode de French Expat, le podcast, c'est que mon invité partage trois expériences, selon toi, donc, à ne pas manquer pour découvrir le New York de Clémentine. Alors, ça peut être trois lieux, trois trucs à voir, à sentir, à goûter, enfin, absolument ce que tu veux, mais trois trucs à vivre, du coup, je pense, à New York pour découvrir ton New York. Ce serait quoi ?
Aïe, aïe, aïe ! Non, mais surtout, il va falloir sélectionner parmi la multitude de recos que je pourrais donner. Alors, je dirais numéro 1. Alors, attends, on parle hors Covid. Hein.
Oui, bien sûr, bien sûr. Dans un monde merveilleux.
Dans un monde merveilleux. Numéro 1. Attends, je me rends compte que c'est que des trucs de soirée. C'est horrible. Alors, attends.
C'est une autre période de ta vie.
Ah, mon Dieu, c'est atroce. Enfin, c'est atroce, c'est flippant. La meuf n'a vécu que la nuit, en fait. Je suis désolée. Hein. Ce sera le New York noctambule.
Mais oui.
Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était connecté à un réseau de soirées un peu pas clandestines, mais de soirées en bouche à oreille. En fait, à New York, il y a plein de soirées qui sont un peu planquées, soit dans des lieux, tu vois, où moi je me souviens d'une friterie ou un truc de tacos qui était sur une grande artère. Je me souviens, c'était Houston Street, je sais plus. Et en fait, c'était donc en façade un snack en fait de tacos et il fallait donner un nom de code, un mot de passe et il t'ouvrait en fait
comme dans les films
à l'arrière, comme à la, ouais, voilà, comme dans les films. Et là, tu descendais dans une sorte de speakeasy, tu vois, complètement incroyable avec des candélabres, du bois partout sur les murs et tu passais une soirée inoubliable. Je pense qu'il y a encore plein d'endroits comme ça planqués. Moi, si je devais retourner habiter à New York, je me débrouillerais pour trouver ce réseau parce que c'était vraiment fou.
Mmh.
Il y a quand même quelque chose qui est très touristique, mais qui pour moi n'a pas son pareil à New York, c'est Broadway. Et ça, je peux te dire que j'en ai écumé des théâtres de Broadway parce que je suis passion comédie musicale. Qui dit passion comédie musicale dit... J'ai été en voir un paquet et à chaque fois c'est en plus à l'époque il y avait pas du tout toutes ces comédies musicales qu'il y a en France maintenant
ouais.
Et donc si tu veux aller voir un spectacle à Broadway c'était oh, c'était complètement magique. Et je pense que ça le reste toujours parce que il y a cette ambiance quand même très particulière et il y a des spectacles d'une qualité dingue. Mmh. Il n'y a pas que Manhattan, il y a Brooklyn qui vraiment mérite le détour. Moi, c'était un endroit où je passais aussi beaucoup de temps. À l'époque, c'était le quartier, le premier quartier là sur la ligne L.
Je connais très mal Brooklyn.
Amnésie. Bon, je vais dire Brooklyn, tant pis.
D'accord.
Mais Brooklyn, c'est tellement vaste. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, je pense aussi que quand on est beaucoup dans Manhattan, c'est bien, mais c'est bien aussi d'en sortir.
Oui.
Et c'est bien d'aller explorer ce qu'il y a au bout d'une ligne de métro, par exemple. Moi, je faisais souvent ça. On fonctionne beaucoup avec le métro et les bus à New York, ou avec la marche à pied, hein, qui fonctionne très bien aussi. Mais c'est vrai que moi, ça me faisait marrer d'aller explorer, tu vois, des lignes de métro, d'aller tout au bout et puis de revenir. Et ça te permet de te retrouver dans des quartiers complètement différents les uns des autres, où tu voyages au sein même d'une même ligne de métro. Et notamment, je me souviens d'explorations dans Brooklyn complètement fascinantes, où tu te retrouves. Je m'étais retrouvée dans le quartier, des juifs orthodoxes, où ils sont tous tous habillés de manière très traditionnelle, avec les papillotes, les chapeaux. Mais en fait, les rues sont remplies de cette population-là, tout d'un coup.
Ouais.
Et tu sais pas comment... Tu vois, le bloc d'avant, c'était pas du tout ça. Et puis le bloc d'après, t'as l'impression d'être vraiment ailleurs, quoi. Donc, moi, j'avais beaucoup, beaucoup exploré Brooklyn, aussi bien toutes les petites boutiques de fripe, les boutiques de déco, de brocante. Je ne sais pas s'il en reste qui sont préservées et qui sont encore pas trop touristiques. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment des quartiers que j'écumais. Et puis, il y a aussi toute la scène un peu de concerts. Rock, mais ça c'est grâce à mon mec que je l'ai découverte beaucoup, puisque lui c'est un dingue de concerts et on a beaucoup beaucoup fait aussi tous les petits bars concerts dans East Village à l'époque. Je sais pas si c'est toujours le cas et si il y en a toujours autant, mais en tout cas c'est des ambiances incroyables en fait, où tu sais pas, tu prends même pas un ticket, si tu veux tu vas dans l'endroit et puis tu découvres un groupe et tu passes une trop bonne soirée. Voilà, écoute, je te dis, c'est très noctambule, hein, mais...
Trop bien, écoute, c'est vachement sympa. En tout cas, ça fait du bien de se projeter dans une période peu future.
Ah oui, aussi, ne jamais oublier à New York les rooftops. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans un hôtel, dans un building, n'importe quoi, où vous sentez qu'il y a une possibilité de rooftop, il faut vraiment penser à aller au fond, prendre l'ascenseur, et appuyer sur le dernier étage, parce que il y a beaucoup quand même de rooftop connus ou inconnus et qui valent vraiment le détour.
C'est une bonne conseil. D'ailleurs, si t'étais pas loin du Flatiron Building, tu devais pas être loin du, c'est quoi, c'est le 230 là sur la 5e avenue, qui est une superbe vue sur l'Empire State. Non, ça n'a pas l'air de te dire grand chose. Je te vois au
bout d'un moment. Le 230, c'est quoi? C'est un resto?
C'est un rooftop qui fait aussi resto, je crois, mais c'est un bar sinon.
Là, comme ça me dit rien, mais peut-être que c'était pas ouvert à l'époque. Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à Clémentine pour ce chouette moment passé ensemble et un merci tout spécial à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bon, et sinon, on part où la semaine prochaine? Écoutez.
Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qui ont peur de partir seule, qui me disent mais tu t'ennuies pas, t'as pas peur de te faire chier et tout. Et je dis toujours mais comment tu veux que je m'ennuie avec moi? Enfin, t'es censé être avec toi-même. Ouais. Donc, si tu te fais chier avec toi, c'est chaud. Quand tu veux demander à quelqu'un d'être avec toi, si tu te fais chier avec toi. Et donc, il y a vraiment eu, pendant le voyage, vraiment une sensation de me parler à moi, mais d'être vraiment deux.
C'est dingue.
Tu sais, c'est un peu schizophrénique, mais j'ai vraiment eu un moment, un fou rire avec moi, en me disant, non, mais tu vas pas faire ça, mais n'importe quoi, tu vois. Un truc complètement dingue. Et donc c'était ouais c'était, et donc je rentre tu vois un peu apaisée, parce que il m'a fallu 10 jours pour m'asseoir à côté de moi et de me dire ok Bérangère, qu'est-ce que tu veux faire de ce voyage. Mm-hmm. Voilà, tu as toutes les clés en main, c'est pas ton père, ton mec, ta mère, tes amis qui vont choisir pour toi, c'est toi et moi, on choisit tout.
Si vous souhaitez poursuivre la conversation autour de cet épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, on est à peu près partout, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, ainsi que sur le site internet www.frenchexpatpodcast.com. Allez, c'est fini pour cette semaine, belle fin d'année à vous et à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.